Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Monceau. Beaucoup de films cette semaine dans Clap, Les Jeunes Amants, Arthur Rimbaud, H6, Super-héros malgré lui, Introduction, Petite Solange, Red Rocket, Adieu Paris, The Souvenir et The Souvenir Part 2. Et puis les films pour enfants, puisque les vacances scolaires, c'est ce soir. Il y a par exemple Vaillante, Vanille, Les voisins de mes voisins sont mes voisins. Autant le dire, on n'aura pas le temps de parler de tout, mais on essaiera de parler de l'essentiel. Pour la programmation musicale, on est allé picorer un petit peu à droite à gauche et on commence par un titre que l'on entend dans Les Jeunes Amants, c'est Françoise Hardy. Et Françoise Hardy, c'est le premier bonheur du jour sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe, mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint.
Et oui, c'est très court, le premier bonheur du jour, Françoise Hardy. Ce titre, on l'entend dans Les Jeunes Amants. Et Les Jeunes Amants, eh bien, on en parle tout de suite. Les Jeunes Amants, c'est un film qui est proposé par le cinéma Les Cinéastes, et je crois bien également par Le Pâté Quinconce, à vérifier. C'est un film de Karine Tardieu, c'est une réalisatrice, scénariste née en 73. Elle a commencé, comme très souvent, par de courts-métrages. En 2007, premier long-métrage, La Tête de Maman, avec Karine Viard et Cadmerade. 2011, Du Vent dans les Mollets, avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès et Isabelle Carré. Et en 2017, Ôte-moi d'un doute, avec François Damiens et Cécile de France. Le film Les Jeunes Amants dure 1h52. Shona, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu'elle avait tout juste croisé des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle une femme d'un certain âge, mais une femme désirable qui n'a pas peur d'aimer, à ceci près que Pierre est marié et père de famille. La revue de presse comme il se doit, une revue de presse d'ailleurs très très favorable au film, c'est la rédaction de La Croix, d'une grande délicatesse. Ce film sur une passion amoureuse entre un quadragénaire et une septuagénaire est illuminé par les interprétations de Fanny Ardant et de Melville Poupeau. Olivier Delcroix dans Le Figaro, avec une grande tendresse et une justesse dans tous les plans, Karine Tardieu orchestre un mélo flamboyant à la Douglas Sirk. Catherine Ball, Le Parisien, il fallait la délicatesse de Melville Poupeau, la subtilité de Fanny Ardant et la finesse de la réalisation de Karine Tardieu pour qu'on plonge totalement dans cette grande romance et dans ce beau film. Olivier De Bruyne dans Les Échos, Karine Tardieu dirige une Fanny Ardant et un Melville Poupeau remarquables dans une histoire passionnelle hors norme entre une septuagénaire et un homme bien plus jeune, délicat, émouvant et sans cliché. Isabelle Magnette et Les Sept Jours, entourée de second rôle attachant, Fanny Ardant, vibrante, délicate et Melville Poupeau, porte cette love story vivifiante et dénuée de pathos. Et Thierry Chaise en première, la réalisatrice fuit tout pathos pour raconter une passion capable de tout renverser sur son passage, y compris les résistances de sa principale protagoniste. Melville Poupeau et Fanny Ardant s'y révèlent sublimes de complicité et d'intensité. On pourrait continuer encore comme ça. La critique est assez élogieuse vis-à-vis de ce film, et ma foi, je rejoins la critique. C'est un film sur ce qu'on pourrait appeler les mystères de l'amour, et plus précisément sur le fait qu'on peut aimer à tout âge, et même à l'hiver de sa vie. Belle métaphore, belle périphrase, pardon. À l'hiver de sa vie, quand on s'y attend, notamment, le moins, et qu'on y a même renoncé. Voilà, alors il s'était croisé 15 ans plus tôt, quand elle, Shona, l'avait rencontré, lui, le médecin qui veillait sur la fin de vie de son ami de toujours. Il l'avait déjà remarqué, et elle, bah, pas tant que ça. Il se retrouve fortuitement, par le hasard des circonstances, grâce à celui qui est le meilleur ami de Pierre, et le fils de cet ami de Shona décédé 15 ans auparavant. L'attirance est immédiate, il a 45 ans, il est marié, il a deux enfants, un métier passionnant, elle a 71 ans, elle est divorcée, elle a une grande fille. Que faire de cet amour sincère, apparu soudainement, qui n'est pas une simple aventure, qui va profondément leur vie, profondément transformer leur vie à chacun. C'est tout le thème du film. Alors c'est filmé avec tact, beaucoup de pudeur. Ce film sur la passion amoureuse émeut, bouleverse même, on peut le dire. Fanny Ardant est absolument parfaite en femme libre et indépendante, soudainement troublée, qui retrouve le goût d'aimer, tout en étant consciente de ce qu'un tel amour peut avoir comme conséquence avec une telle différence d'âge. Une situation extrêmement déstabilisante, à la fois acceptée, mais crainte également par elle. Melville Poupeau, lui également, est touchant, hein, en amoureux, sincère, et dont cette histoire va détruire le couple, un couple qui était jusqu'alors sans tâche, un couple amoureux. Les seconds rôles ne sont pas négligés, au contraire, et ces seconds rôles ont une vraie chair, quelque chose à défendre. Ils vivent aussi chacun à leur manière une vie sentimentale à des âges différents. Et il y a ainsi la fille ado de Pierre, son meilleur pote, qui a à peu près le même âge que lui, la grande fille de Shona et sa petite fille. Bon, bref, il y a aussi l'épouse de Pierre, qui est jouée par Cécile de France. C'est une façon pour les auteurs de montrer des situations amoureuses différentes, à des âges différents. Donc, au total, un beau mélo romanesque, débordant d'émotions, plein d'intensité dans les sentiments, et même un mélo qui est crédible, parce que on croit cette histoire entre cette femme de 70 ans et celui qui n'est quand même pas un jeune homme, puisqu'il a 45 ans. C'est un beau film que je recommande, Les Jeunes Amants, c'est à voir au cinéaste avec... avec deux séances par jour, et je crois bien, mais à vérifier également, je suis presque sûr, au Pâté Quinconce. Où je suis sûr, c'est que pour Arthur Rimbaud, ben là, il n'y a qu'une seule possibilité pour le voir, ce film, c'est au cinéaste. Arthur Rimbaud, c'est un film de Laurent Cantet. Laurent Cantet, c'est un réalisateur quand même important dans le cinéma français, acteur, réalisateur, scénariste, né en 61, commence lui aussi par le court-métrage. Un premier long métrage en 97, Les Sanguinaires, avec Frédéric Pierrot. Puis 99, le film avait marqué les esprits à cette époque-là. C'était Ressources humaines, on découvrait Jalil Lespère. Ensuite, 2001, L'Emploi du temps, avec Aurélien Recoin et Karine Viard. 2005, Vers le Sud, avec Charlotte Rampling. 2008, Entre les murs, avec François Bégodeau. Je crois bien que le film, enfin, je suis sûr, avait obtenu la Palme d'Or à Cannes cette année-là. 2012, Foxfire, confession d'un gang de filles. 2012, également, 7 jours à la Havane. Enfin, en tous les cas, un des segments de cette œuvre collective. 2014, Retour à Ithaque. Et 2017, L'Atelier avec Marina Foïs. Le film Arthur Rimbaud dure 1h27. Qui est Karim D? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son alias? Arthur Rimbaud, qui poste des messages haineux que l'on exhume un jour des réseaux sociaux. Voilà, ça, c'est la problématique, comme on dit aujourd'hui, du film. La revue de presse, la rédaction de La Croix, ce film implacable sur un personnage ambigu renvoie à la responsabilité, au poids des mots et à l'introuvable droit à l'oubli. Étienne Sorin, Le Figaro, le réalisateur montre avec finesse l'ascension et la chute d'un jeune laissé pour compte devenu célèbre. Marie-Lou Duponchel dans Les Inoccupables, de ce matériau inflammable qui embrasse des sujets liés à l'appartenance de classe, à la possibilité ou pas de s'en extraire, mais aussi au racisme systémique, à la liberté d'expression. Kanté tire un film alerte et nerveux, proche du polar. Olivier de Bruyne dans Marianne, après avoir signé plusieurs films marquants sur la France d'aujourd'hui, Laurent Kanté récidive avec ce dérangeant Arthur Rimbaud. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, servie par une mise en scène nerveuse et inventive, Le film passionne et nous tient jusqu'à son dénouement cruel. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, eh bien, c'est lui qui n'a vraiment pas aimé le film. Eh bien, on sortira du film comme on y est entré en se demandant si cette triste histoire appelait autre chose que la réparation du silence. Voilà, donc, Arthur Rimbaud, un film d'une durée de 1h27, proposé par le cinéma Les Cinéastes, avec une ou deux séances par jour. Et pour moi, c'est le film de la semaine. C'est inspiré d'une histoire survenue il y a quelques années, hein, 3-4 ans, quelque chose comme ça, à Mehdi Meklat. Je pense qu'on prononce Meklat ou Mekla, je ne sais pas. C'est l'histoire de Karim. Karim, c'est un jeune auteur de romans d'essai, d'autofiction, on va dire. Issu de la banlieue, il est promis à un brillant avenir littéraire. Et dont le dernier roman, sur sa mère et sur l'immigration, fait le buzz médiatique dans le tout Paris. Médiatique justement, et qui se voit torpillé en quelques instants quand ressortent d'anciens tweets particulièrement nauséabonds, antisémites, homophobes, racistes, etc. C'est l'illustration parfaite de l'adage qui veut qu'il n'y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpeienne. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, tout simplement, c'est le parcours sur 48 heures de Karim qui doit donc faire face à un raz-de-marée numérique qui le désingue et fait de lui un paria aussi vite qu'il a été porté au pinacle, voilà. Donc c'est un film extrêmement intéressant sur la puissance des réseaux sociaux, sur ceux qui les alimentent, ceux qui les suivent, ceux qui les commandent, et les conséquences qu'entraînent des tweets publiés jadis, parce que les tweets dont il est question là, Karim les a publiés 4 ou 5 ans auparavant. Mais jamais ces tweets ne s'effaceront. C'est le principe des réseaux sociaux. Tout ce qu'on y poste, eh bien, c'est gravé comme dans le marbre, en quelque sorte. Ça n'en disparaîtra pas. Le film montre donc ce garçon qui doit affronter, en vain d'ailleurs, la déferlante qu'il a provoquée, qui essaie de se justifier, et ce faisant s'enfonce d'ailleurs encore plus, car, en fait, le film pose la question de qui est Karim, et montre bien que si la réponse est complexe, si la réponse est ambiguë, il en va quand même de sa responsabilité individuelle dans ce qu'on dit ou surtout écrit, et qui aujourd'hui peut vous revenir en boomerang, même si vous jurez vos grands dieux que vous avez changé. Et oui, c'est possible de changer, mais là, ça lui revient dans le pif, en quelque sorte. Le film montre donc les conséquences et les réactions de son entourage également. Son entourage, eh bien, c'est ses petites amies, ses potes de toujours récents, sa mère, son petit frère, et chacun donc s'exprime et a son point de vue sur la question, le rejette, est solidaire avec lui. Enfin, tout ça est passionnant parce que ben chacun a sa façon de justifier sa réaction et tous ont de bonnes raisons de penser ce qu'ils pensent. Le film aborde également d'autres thèmes. Hein, trahit-on les siens en sortant de sa banlieue? Et justement, peut-on en sortir de sa banlieue? L'autre thème, c'est l'impact des médias, les limites de la liberté d'expression, l'effet de mode. C'est un film extrêmement riche. Certains ergoteront peut-être sur la réalisation un peu passe-partout. Qu'importe, moi, ce qui compte ici, ce n'est pas tellement la forme, mais c'est le fond. Et là, le film donne vraiment matière à réflexion avec intelligence. Il montre parfaitement l'impact des réseaux sociaux dans la vie de ceux qui s'y adonnent. À travers cette histoire de descente aux enfers, c'est un film que beaucoup de lycéens devraient aller voir. Ça leur mettrait peut-être les idées en place sur leur utilisation des réseaux sociaux. Voilà, ça s'appelle Arthur Rimbaud. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir, parce que c'est le but quand même. Et c'est un film qu'on peut voir exclusivement au cinéaste. Tout comme d'ailleurs le film dont on parle maintenant, qui s'appelle H6. H6, c'est réalisé par... Alors, est-ce que ça se prononce Ye Ye? Je suppose, c'est une réalisatrice chinoise, Ye Ye, Y-E-Y-E, moi je vois pas comment prononcer ça autrement. C'est un documentaire d'une durée d'1h54, c'est proposé, je le répète, par Les Cinéastes, avec une séance et encore pas tous les jours. Donc attention, procurez-vous la petite fiche ou allez sur le site des cinéastes pour savoir quand le film est projeté. Donc c'est le destin de 5 familles qui se jouent à l'hôpital numéro 6 de Shanghai, d'où le titre H6. À travers leur histoire croisée se dessine un portrait de la Chine d'aujourd'hui entre culture traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens de l'humour permettent aux familles et patients de tenir le cap face aux aléas de la vie. Alors, Gilles Kerdron en West France déclare que c'est touchant, instructif, dur, drôle et passionnant. Céline Rouden dans La Croix, il est moins question pour Ye Ye de porter un regard critique sur son pays que d'en montrer le versant intime, celui d'une humanité confrontée à la souffrance, qui se révèle avec sa pudeur, un certain fatalisme, mais aussi une bonne dose d'humour et d'optimisme. Alexis Campion, Le Journal du Dimanche, Autant de situations et de personnages dont l'humanité nous bouleverse au fil de dialogues pudiques et crus et où la souffrance n'interdit pas l'humour ni l'entrain. Didier Perron dans Libération, en suivant cinq familles dans l'immensité de l'hôpital du peuple numéro 6 de Shanghai, la cinéaste Ye Ye offre une plongée fascinante dans le tentaculaire réseau de santé chinois pré-Covid, radiographie d'un microcosme social autant que d'une modernité économiquement sans pitié. Gaël Golen dans Première, poétique, drôle, touchant, émouvant. H6, c'est la photographie d'un lieu et des gens qui y passent. À un niveau plus symbolique, le film raconte aussi le rapport d'un peuple à la maladie, à la vie et à la mort, à sa culture. C'est assez fascinant. Étienne Sorin dans Le Figaro, tourné avant le Covid, H6 marche à l'émotion. Cela ne suffit pas tout à fait pour captiver. Eh bien, je n'ai pas vu H6, mais ça ne vous empêche pas d'aller le voir éventuellement au cinéaste. Petite pause musicale. Eh bien, on va passer Aya Nakamura. Ça ne doit pas passer souvent sur Radio Alpa, mais c'est un titre que l'on entend dans le film Arthur Rimbaud, dans une scène de boîte en quelque sorte, et ça s'appelle Pookie. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Voilà.
T'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai l'avocat. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé fais du sale, allo allo allo, million dollars, bébé tu bosses. Bébé fais du sale, allo allo allo, million dollars, bébé tu bosses. J'suis gang, oh gang, boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, oh gang, boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 pookie, ferme la porte à la pookie dans le sas. Bla 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 pookie, ferme la porte à la pookie dans le sas. Pookie 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 pookie, ferme la porte à la pookie dans le sas. Pookie pookie pookie, ferme la porte à la pookie dans le sas. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps ah ah j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'sais barré fort, là j'ai pas le time pour toi. J'sais barré fort, là tu fais trop d'efforts. Ces bye là, c'est pour les mecs comme ça. Taclé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bons boys, ça va grave qu'écra. J'crois que c'est leur ding dong. J'suis gang, oh gang. Boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, oh gang. Boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 pookie, ferme la porte à la pookie dans le sas. Bla 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 pookie, ferme la porte à la pookie dans le sas. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps ah ah j'ai vu dans ça. Bébé fais du sale, allo allo allo, million dollars, bébé tu vaux ça. Bébé fais du sale, allo allo allo, million dollars, bébé tu vaux ça, tu vaux ça, tu vaux ça. Oh c'est chaud là oh, oh c'est chaud là, oh c'est chaud là oh, oh c'est chaud là. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps ah ah j'ai vu dans ça. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps ah ah j'ai vu dans ça.
Pookie Aya Nakamura, une chanteuse réputée pour la clarté de ses textes, et que l'on peut entendre dans Arthur Rimbaud. Voilà, super-héros malgré lui, et eh bien ça c'est le gros film qui doit faire beaucoup d'entrées pendant les vacances dites d'hiver. C'est un film qu'on peut voir au Pâté Quinconce, qu'on peut voir au Méga CGR, et qu'on peut voir même au Colisée. C'est un film de Philippe Lachaud, acteur, scénariste, réalisateur, né en 80, on l'a découvert avec en 2013 Babysitting, dans lequel il jouait avec également Gérard Jugnot et Clotilde Courau, qui avait été co-réalisé à cette époque-là par Nicolas Benamou. 2015, Baby Sitting 2, on retrouve la même équipe, avec en plus Alice David et Vincent Desagna. 2017, Alibi.com. Alors, Alibi.com, ben, je crois que ça passe à la télévision, il me semble, dimanche prochain, ou alors c'est passé peut-être dimanche dernier. C'est avec Nathalie Baye, Didier Bourdon, plus toujours Philippe Lachaud et ses acolytes habituels. 2019, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, avec toujours la fameuse bande à Fifi. Le film super-héros malgré lui dure 1h22. Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir, mais n'est pas héros et encore moins super-héros qui veut, et encore moins Cédric. Alors là, c'est très tranché, hein. Il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent. Il n'y a pas de juste milieu. Carole Nivier dans 20 minutes, un film vraiment très rigolo. Parfait remède contre l'amorosité. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche. Si certains gags fonctionnent mieux que d'autres, on retrouve l'enthousiasme et l'irrévérence de la désormais fameuse bande à Fifi dans cette nouvelle comédie régressive et jouissive qui n'a pas à rougir de ses scènes d'action très réussies. J'abandonne le monde dans le monde, mais oui, dans le monde, de l'action, de l'humour, de la parodie. De l'esprit d'enfance en un mot distillé pour le meilleur et pour le pire à G tendu. Ça se gâte avec Olivier Delcroix et ça se gâte même sérieusement. Le Figaro, sous cette trame mince, s'enchaîne des gags potaches qui confinent souvent au vulgaire. Xavier Le Harper dans l'Obs, une paresseuse comédie de quiproquo égocentrique, la chouée de tous les plans, sale gosse au mauvais sens du terme et ratant systématiquement sa cible. François Léger dans Première, si son Nicky Larson avait un peu retenu notre attention, Lachaud retombe ici dans l'abattage de gags potaches à peine écrits. Voilà, donc ça, c'est ce qu'en pense la presse, ce que j'en pense moi. Eh bien, c'est donc l'histoire de Cédric, c'est un jeune comédien. Il a enfin réussi à décrocher un rôle, parce que quand même un comédien un peu foireux. Hein. C'est le rôle d'un super-héros dans une production française. Hélas, à la suite d'un accident survenu avec sa voiture de super-héros, eh bien, il perd la mémoire et croit être justement ce super-héros, d'où évidemment une suite ininterrompue de quiproquos. Alors on retrouve à nouveau la fameuse bande à Fifi, c'est-à-dire Philippe Lachaud, Julien Ruti, Tarek Boudali, Élodie Fontan. Donc on les retrouve dans ce film, dans ce qu'ils savent faire de mieux, dans ce que cette bande sait faire de mieux. Des bonnes comédies d'action populaires, sans prétention, mais remplies de gags, dont certains, reconnaissons-le, sont hilarants, pas tous, il y a notamment des gags visuels qui sont une spécialité un petit peu de la maison et qui l'emportent notamment sur les dialogues, même si certaines vannes sont quand même assez savoureuses. Bon, tous les gags ne sont pas réussis, certains tombent un petit peu à côté, bon, c'est comme ça, hein. On peut pas tout réussir. C'est un film également qui est plein d'allusions au second degré, au film de super-héros américain. Allusion de référence, hein, aux allusions à bien sûr Batman, mais aussi Spider-Man et plein d'autres. C'est pas la peine de faire la fine bouche, hein, c'est du cinéma un peu facile, mais faut quand même reconnaître que si Philippe Lachaud était américain, eh ben peut-être qu'on louerait son talent largement dit par exemple de celui des frères Farrelly qui font pas beaucoup plus fin, qui faisaient en tous les cas pas beaucoup plus fin parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de film d'eux. Alors c'est moins inventif scénaristiquement que Babysitting qui était vraiment un film qui était remarquable de par son inventivité. C'est l'histoire surtout qui sort de prétexte, mais il faut quand même être un sacré pisse-froid pour ne pas rire à de nombreuses reprises au cours d'un film qui est quand même très sympa, à l'humour potache comme on dit, pas long, hein, 1h20, avec assez peu de temps mort, des gags bien trouvés, dont un particulièrement osé qui a rapport avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais bon, passons. Certains gags sont plus faciles que d'autres, il y a des gags un peu scato, ça c'est clair. Bon, le film plaira à coup sûr aux fidèles de Philippe Lachaud, c'est plutôt un public adolescent et adolescent. Alors oui, ça n'est pas toujours très fin, je répète, il y a quand même, malgré tout, il faut le reconnaître, un vrai sens du burlesque. L'objectif, c'est de divertir, divertir sans prétention, sans prise de tête. On peut dire que cet objectif est atteint. En tout cas, moi, je reste encore relativement client des films Philippe Lachaud, parce qu'ils ne sont pas trop longs, donc on n'a pas trop vraiment le temps de s'ennuyer avec ces films. Super-héros malgré lui, Colisée, Méga CGR, Pâté Quinconce, c'est le film où vont se précipiter les jeunes pendant les vacances d'hiver. Introduction. Alors là, c'est sûr que les jeunes s'y précipiteront pas. C'est un film de Hong Sang-soo. Alors Hong Sang-soo, je ne vais pas vous faire toute sa filmographie, simplement vous dire que c'est un réalisateur, scénariste, producteur sud-coréen qui est né en 60 et qui doit bien avoir à son actif une quarantaine de films. Le premier avait un titre formidable, 2003, Le jour où le cochon est tombé dans le puits. Et puis en 2003 également, La Vierge mise à nu par ses prétendants. Ensuite, les titres sont beaucoup plus banal, hein, on va dire. Et on va citer parmi les films de Hong Sang-soo, bah, les derniers, donc en 2020, La femme qui s'est enfuie, en 2018, Hotel by the River, 2018 également Grâce, 2018, La caméra de père. Oui, alors je dis 2018-2018 parce que bah, Hong Sang-soo, il donne en général plusieurs films par an. Voilà, donc la filmographie de Hong Sang-soo, c'est une quarantaine de films. Donc, le film est proposé, je répète, au cinéaste, évidemment en version originale, et il a droit à une séance par jour, et encore pas tous les jours. Alors, de quoi est-il question dans l'introduction? Eh bien, il est question de Young Ho, qui cherche à se frayer un chemin entre son rêve de devenir acteur et les attentes de ses parents. Alors que sa petite amie part étudier à Berlin, le jeune homme y voit l'occasion d'un nouveau départ. Mathieu Macheret, dans les cahiers du cinéma, l'art de Hong Sang-soo en est désormais arrivé à ce stade suprême de frugalité, de modestie et de délicatesse, qu'il n'a plus besoin de jouer sur autre chose que sur l'ampleur des vides qui parsèment ses récits, maître du manque et des lisières, qui ne saisit plus de la douleur d'aimer que le versant aveugle, indicible. Bon. Jean-François Roger, Le Monde, derrière son minimalisme, son noir et blanc laiteux, sa concision et la fausse simplicité de sa forme, le film de Hong Sang-soo atteint une fois de plus ce qui constitue l'essence même du cinéma, un art de montrer qui est aussi un art de penser. Didier Perron, Libération, opus volontairement mineur, d'une filmographie prolifique, Introduction parvient cependant, par on ne sait quel sortilège, à imprimer à l'esprit sa mélancolie de neige, de bitume et de sel. Xavier Lerpeur dans l'Obs, une œuvre subtile et réussie, malgré une impression de déjà-vu. Stéphanie Belpech, au Journal du Dimanche, un drame intimiste qui pâtit d'un récit déstructuré, brouillant inutilement les pistes, souligné par un rythme languissant et hypnotique. Thierry Chaise, première, à force de se démultiplier à chaque poste, réalisateur, producteur, scénariste, chef-op, monteur, compositeur, le cinéma d'Hong Sang-soo finit par étouffer. On le regarde avec admiration, mais sans passion, et en attendant le suivant. Voilà, ben moi je ne suis pas allé voir Introduction de Hong Sang-soo, mais que ça ne nous empêche pas d'aller y jeter un œil éventuellement. C'est au cinéaste avec une séance par jour, et encore pas tous les jours. Toujours au cinéaste, Petite Solange. Petite Solange a droit à une ou deux séances par jour. Petite Solange, c'est un film de Karine, de Axel Roper. Pourquoi je dis Karine Tardieu? Ah oui, je sais pourquoi. Parce que les jeunes amants. Oui, Axel Roper. Donc, c'est un film, dont elle est réalisatrice. Et elle avait réalisé, alors c'est une actrice, réalisatrice, scénariste. Elle a réalisé auparavant des courts et des moyens métrages. Et en 2009, on passe au vraiment long métrage, La famille Wahlberg, avec François Damien et Valérie Benguigui. 2012, Tirer la langue Mademoiselle, avec Laure Bourgoin, Louise Bourgoin et Cédric Kahn. 2015, La prunelle de mes yeux, avec Mélanie Bernier et Bastien Bouillon. Voilà, donc, pour la filmographie d'Axel Roper. Le film n'est pas très long, 1h25. Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de curiosité, avec quelque chose de spécial. Elle est sentimentale à l'excès et adore ses parents. Mais un jour, elle réalise qu'ils se disputent et commencent à s'éloigner. L'ombre du divorce se précise. Alors Solange va s'inquiéter, réagir et souffrir. C'est l'histoire d'une jeune ado trop tendre qui voudrait une chose impossible, que l'amour ne s'arrête jamais. Ben, la presse apprécie le film Petite Solange. C'est Caroline Vier dans 20 minutes, parfois, pas souvent. On découvre une jeune actrice à l'écran et on est scotché. C'est le cas pour Jade Springer, ou Springer, je ne sais pas comment on doit dire, héroïne de Petite Solange d'Axel Roper. Éric Neuhoff dans Le Figaro pour Petite Solange, Axel Roper a choisi la douceur, la retenue. Elle filme la solitude avec la grâce d'un Truffaut, François Truffaut. Barbara Théâtre, Le Journal du Dimanche, dans une mise en scène frémissante d'énergie. Cette chronique intime et parfois cruelle, qui ose le mélo sans être tire-larme, réussit à être totalement au diapason des palpitations de sa jeune héroïne, en résistance devant son monde qui s'écroule. Olivier de Bruyne dans Les Échos, malgré ses airs de déjà-vu, le film sur la séparation parentale échappe toutefois aux facilités et à l'académisme, grâce à la sensibilité impressionniste, à sa description subtile des tourments de la préadolescence et à l'interprétation de ses trois acteurs principaux. Alors oui, j'ai pas cité, il y a aussi Léa Drucker et Philippe Catherine. Un petit film, entre guillemets, petit, qui en vaut assurément bien des grands. Dix richesses dans Ouest-France, un récit initiatique à fleur de peau, d'autant plus touchant qu'il n'est jamais larmoyant, porté par l'interprétation d'un naturel saisissant de Jade Springer, révélation d'un film dont on devrait entendre parler. Positif, Ariane Allard, Axel Roper signe là son film le plus bouleversant, dans la lignée de L'Incompris de Luigi Comencini, auquel elle fait discrètement allusion. Céline Roudin dans La Croix, un drame poignant et un mélo assumé qui révèle le talent et le naturel de sa jeune actrice Jade Springer. Muriel Joudet, Le Monde, le film semble étrangement tenu par deux mouvements contradictoires, la tentation d'un mélodrame lacrymal et un excès de retenue qui empêche le récit de trouver sa pleine incarnation. Donc, ça s'appelle Petite Solange, ça dure 1h25, c'est proposé par les cinéastes avec une voire deux séances par jour. Cette Petite Solange, eh bien, c'est une jeune adolescente de 13 ans. Elle n'a pas de problème particulier dans sa vie, c'est une élève sans problème. Elle est sensible, elle est heureuse dans sa famille, jusqu'au jour où elle perçoit qu'après 20 ans de mariage, eh bien, ses parents commencent, en tous les cas, le couple de ses parents commence à battre de plus en plus de l'aile, jusqu'à un inévitable divorce qui la plonge dans le désarroi, voire même la détresse. Alors c'est clair, c'est un film sensible, au style longtemps épuré, certainement même trop épuré pour mon goût personnel, où l'émotion se devine, disons, plus qu'elle ne se voit à l'écran, tant Solange intériorise sa souffrance face à une situation sur laquelle elle n'a aucune prise. C'est un film avec des seconds rôles qui sont peu développés ou même oubliés en route, ça c'est un petit peu dommage. Celui pour lequel un petit béguin, on le voit, puis il disparaît de la circulation. Sa copine, pareil. Le grand frère, alors lui, bon, il est à Paris, il disparaît. Il n'a pas une grande importance de le film. Il n'est pas d'ailleurs excellent sur le plan du jeu de la comédie. Bon, enfin, et ce n'est que dans les, je dirais, 15 dernières minutes que l'émotion surgit vraiment après une ellipse particulière d'une durée, une ellipse de temps. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un minuscule drame intime, un peu en apesanteur, qui touchera à coup sûr ceux qui ont été confrontés dans leur enfance à ce problème de divorce de leurs parents. Ils s'identifieront certainement à Solange. Pour les autres, c'est un film, alors certes plein de délicatesse, de retenue, mais quand même très peu d'enjeux, si ce n'est le portrait de cette petite Solange, ma foi. Je suis pas hyper emballé par Petite Solange. Voilà, c'est au cinéaste. Allez, pause musicale, ça va me faire du bien. Un titre que l'on entend dans le film Super-Héros Malgré Lui, ça s'appelle Come and Get Your Love, Redbone, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Voilà. Come on. Come and Get Your Love, Redbone, un titre que l'on entend dans Super Héros malgré lui, et comme faisait remarquer Rodolphe Pereira qui passait dans le studio, on l'entend aussi dans Les Gardiens de la Galaxie, et oui, c'est vrai, ma foi. Allez, Red Rocket, c'est un film que l'on peut voir au cinéaste, réalisé par Sean Baker, réalisateur, scénariste, producteur américain né en 71. Il avait réalisé en 2008 Prince of Broadway, mais ça n'avait pas été distribué en France. Et puis en 2015, Tangerine, et en 2017, The Florida Project avec Willem Dafoe et Brooklyn Prince. Red Rocket, ça dure 2h08, et oui, et c'est proposé par les cinéastes avec une voire deux séances par jour. Mickey Saber revient dans sa ville natale du Texas après des années de carrière de pornstar à Los Angeles. Il n'y est pas vraiment le bienvenu. Sans argent, sans emploi, il doit retourner vivre chez son ex-femme et sa belle-mère. Pour payer son loyer, il reprend ses petites combines, mais une rencontre va lui donner l'espoir d'un nouveau départ. Alors, 20 minutes, Carl Olivier. Sean Baker montre une Amérique méconnue et dresse un portrait réjouissant d'un bof d'anthologie. Vincent Ostrier dans l'humanité, entre vision hyper réaliste et satire de l'Amérique, Red Rocket brosse un inénarrable tableau de genre qui est également in fine un commentaire politique sur la décadence et déliquescence du pays. Stéphanie Belpech au Journal du Dimanche, une chronique sociale sans pathos ni jugement moral avec un personnage de loser opportuniste et manipulateur joué par Simon Rex à l'énergie communicative et au potentiel comique évident. La rédaction du Parisien, ode au laisser pour compte de l'Amérique, chronique à la fois hilarante et sans pitié de la débrouille dans laquelle se réfugient des marginaux qui se situent en dehors du système, destruction lance-flamme d'un nouvel ordre moral prisé par la bien-pensance nord-américaine, Red Rocket et tout cela à la fois. West France, ce loser reste attachant, c'est sûrement dû à la stupéfiante performance de l'acteur Simon Rex et à la nervosité de la réalisation de Sean Baker. Télérama, il y a un pour, Télérama, il y a un contre. Le pour, c'est Mathilde Blottière, sans angélisme ni condescendance, mais avec une réelle empathie. Le cinéaste The Florida Project raconte encore une fois cette Amérique des floués et des laissés pour compte qui ont fini, comme dans le film, par botter le cul des Mikey en qui ils avaient cru. Et si vous dites qu'il y a un pour, c'est qu'il y a un contre. Le contre, où est passé le regard empathique de Sean Baker sur les déshérités de l'Amérique qui illuminait The Florida Project? Dans Red Rocket, sa vision des white trash flirte souvent avec la condescendance, voire la misanthropie. Nicolas Scher dans L'Obs déclare que le film est drôle, incisif, mais trop long et répétitif. Lélo Jimmy Battista dans Libération, trop occupé à enrober le sordide dans un joli package arty. Le cinéaste Sean Baker signe un film qui ne va nulle part, malgré l'excellent Simon Rex, dans le rôle d'un acteur porno loser et toxique qui tente un comeback. Voilà, ça s'appelle Red Rocket, c'est-à-dire 2h08. C'est proposé par les cinéastes. Mickey, donc, c'est une ex-porno star. Il revient dans son bled natal du Texas, une main devant, une main derrière, hein, sans rien, quoi. Hein. Il s'impose plus qu'il n'est accueilli chaleureusement chez son ex-femme et sa ex-belle-mère, qu'il réussit quand même à embobiner par de belles promesses. Faute de trouver un travail, vu son CV, c'est pas évident d'embaucher quelqu'un qui est une ancienne pornostar. Il se fait dealer pour la trafiquante du coin et il s'emploie aussi à draguer une jeune fille de pas encore 18 ans, serveuse dans un fast-food de donuts avec une idée derrière la tête. C'est que cette fille a une certaine disposition, elle n'a pas froid aux yeux, dirons-nous, elle est délurée, elle est aussi naïve et il va peut-être profiter de tout ça pour lui proposer un job, mais un job un peu particulier. Voilà, donc, cela, c'est un film qui vaut, c'est le portrait d'un sale type, un type qui est un profiteur, un manipulateur, il est lâche également, sans scrupules, égocentrique, pathétique, de médiocrité, mais bon, il n'est pas totalement antipathique. C'est difficile à imaginer qu'il n'est pas totalement antipathique, vu la quantité de défauts que je viens de citer, mais bon, cela se veut certainement un film sur la description satirique d'une Amérique de petits blancs prolo. Est-ce évocateur de toute la société américaine? Sans doute pas, quand même. C'est beaucoup trop long aussi, ce film, 2h08, parce que ça se répète beaucoup, quand même. Ça se regarde sans ennui, tellement on est fasciné, en quelque sorte, par ce loser et son culot hors norme, incarné, c'est vrai, par un excellent acteur dans ce rôle, Simon Rex, je connaissais pas, c'est peut-être d'ailleurs son premier film, j'en sais rien. Un film à l'ironie mordante, certes, mais pas indispensable, loin de là, parce que c'est quand même parfaitement anecdotique, mais bon, on peut toujours éventuellement se glisser dans la salle et aller voir Red Rocket au cinéaste. Alors, Adieu Paris. Alors, Adieu Paris, c'est un cas un peu particulier parce que je ne sais pas si ce film est sorti cette semaine ou la semaine dernière. Normalement, il a eu une sortie nationale la semaine dernière, mais il m'a complètement échappé. J'ai découvert que ce film était sorti au Pathé Quinconce, mais j'ai découvert ça hier, donc j'ai même pas pu aller le voir. Mais c'est un film quand même intéressant, c'est un film de Édouard Baird. Édouard Baird, c'est pas son premier long-métrage, il avait réalisé La Bostella en 99, en 2005 Aquabo et en 2016 Ouvert la nuit. Mais c'est surtout le casting. Il y a un casting de folie, Pierre Arditi, Jacky Berroyer, François Damien, Benoît Poulvord, Gérard Depardieu, et je dois en passer. Donc c'est un vieux bistrot parisien au charme éternel. 8 messieurs à table, 8 grandes figures. Ils étaient les rois de Paris, entre guillemets. Des trésors nationaux, des chefs-d'œuvre en péril, un rituel bien rodé, un sens de l'humour et de l'autodérision intact, de la tendresse et de la cruauté. 8 vieux amis qui se détestent et qui s'aiment. Et soudain, un intrus. Alors une revue de presse très partagée, c'est par exemple Simon Rieu dans Écran large. Baird, Édouard Baird, réunit une fabuleuse brochette de talents, mais plutôt que de célébrer une énième fois la bonne chair ou les bons mots de ses complices d'hier, il les observe avec une amertume et une cruauté inédite. Profond et triste, Adieu Paris est une élégie étonnante, inattendue et vénéneuse. Marie-Josée Sirac dans L'Humanité, un film en décalage avec l'air du temps qui ne manque pas de charme. West France Thierry Chaise, un hymne à un monde en voie d'extinction aussi savoureux que cruel. Le Parisien, c'est souvent désopilant, grinçant, parfois agaçant. Mention spéciale à Bernard Lecoq, un vieux chanteur dragueur, qui exprime le pathétique d'un homme qui vieillit à reculons et au mutique Jacky Berroyer. Quels soliloques attachants. La Croix, Jean-Claude Raspienjas. Un des ressorts de ce film, gag à répétition, et le ronchonnement des convives de ne pas trouver dans leur assiette les plats qu'ils attendaient. On est tenté de leur emboîter le pas sans avoir envie de quitter la salle. On les regarde partir avec regret. Nous les avons tant aimés. Théo Ribeton, Les Inrecuptibles, l'approche pantouflarde à quelque chose de très libre et de charmant, comme son auteur, et quelques numéros font mouche, Édouard Baird, Poulvord, mais on se sent un peu le dindon de la farce, et si la prochaine fois, au lieu de faire semblant de faire un film, vous vous contentiez d'aller bouffer. Stéphanie Belpech, au Journal du Dimanche, le dispositif statique, bavard et vain, révèle ses limites et finit par tourner à vide. Télérama, Mathilde Blottier, rance, ennuyeux, mal joué, seul Jacky Berroyer survole le naufrage. Adieu Paris ressemble à ces agapes tristes et interminables qui s'achèvent dans les miettes et l'amertume. Ce gueuleton-là vous reste sur l'estomac. Alors, je n'ai pas vu, mais j'y vais en sortant du studio. Parce que, avec le casting que cela, ça mérite quand même le coup d'œil. C'est au cinéma Pathé Quinconce. Et je ne sais pas si le film est sorti la semaine dernière, en sortie nationale, mais je ne l'avais pas vu dans la liste. Ou s'il est sorti cette semaine, et là non plus, je ne l'avais pas vu. Enfin, voilà. Bien. Ça s'appelle Adieu Paris. Il est temps de rattraper son retard. The Souvenir Part 1, The Souvenir Part 2, c'est un film réalisé par Joanna Hogg, réalisatrice, scénariste, productrice britannique des années 60. Tous les films qu'elle a réalisés jusqu'à maintenant n'ont jamais été distribués en France, sauf qu'ils sont distribués maintenant. En 86, Caprice, en 2007, Unrelated, voilà, Unrelated, et en 2010, Archipelago. Ces films donc, ont été distribués cette année, et donc, voilà, Ce Souvenir, Part 1, Part 2. Alors, de quoi est-il question dans le Part 1? Au début des années 80, Julie, une jeune étudiante en cinéma qui cherche encore, rencontre Anthony, un dandy aussi charismatique que mystérieux. Prise sous le charme de cet homme plus âgé, elle se lance avec aveuglement dans ce qui s'avère être sa première véritable histoire d'amour. Malgré les mises en garde de son entourage, Julie s'enferme peu à peu dans une relation toxique qui pourrait bien menacer son avenir. Alors, cette première partie dure 1h48. La deuxième partie, celle qui... la première partie dure 1h59, donc 2h. La deuxième partie dure 1h48, mais n'a pas été réalisée. La même année, elle a été réalisée 2 ans plus tard. Sortant durement éprouvée de sa liaison avec Anthony, homme séduisant et manipulateur, eh bien Julie cherche à faire la lumière sur l'existence fictive qu'il s'était inventée et à mettre de l'ordre dans ses propres sentiments. Lui vient alors une idée un peu folle, et si elle consacrait son film fin d'études à cette douloureuse histoire d'amour, peut-on vaincre ses blessures en mettant en scène un épisode de sa propre vie? Alors ce film, en 2 chapitres, si on peut dire, c'est un diptyque, est proposé par le cinéma Les Cinéastes. Alors, il y a en général une séance par jour, et en général, on peut enchaîner le premier film avec le second. Donc, on peut voir, par exemple, aujourd'hui, le premier film à 14h, le deuxième à 16h30. samedi, premier film à 18h15, deuxième à 20h30. Donc, ça permet d'enchaîner les deux. Si on a aimé le premier, on peut aller voir le second. Si on n'a pas aimé le premier, on n'est pas obligé d'aller voir le second. On paye deux fois sa place et tout. Donc, la presse, eh bien, Le Figaro, Éric Neuhoff, chef-d'œuvre, The Souvenir, on ne sait pas, film culte, oui, mille fois oui. Florence Colombani dans Le Point, ce n'est pas un film, c'est une apparition. D'abord, l'éblouissement de l'image, la plus belle qu'on ait vue depuis Kubrick et Barry Lyndon, vaporeuse, sensuelle, du fragonard sur pellicule, et puis l'émotion dévastatrice du récit. Adrien Gombeau dans Les Échos, à travers le destin d'une jeune femme dans le long des années 80, Johanna Hogg réalise une œuvre splendide en deux volets sur la mémoire et le temps qui passe, l'occasion pour la France de découvrir enfin cette grande cinéaste britannique. Thierry Chasse dans Ouest France, 4 heures d'une sensibilité à fleur de peau, à la mise en scène inventive, qui révèle l'immense Honor Swinton Burns. C'est l'actrice principale, Honor Swinton Burns, qui est la fille de Tilda Swinton, qui d'ailleurs joue sa mère dans le film. Télérama Louis Guichard, l'éclat du résultat montre que formalisme et émotion vont parfois très bien ensemble. Au gré des scènes et des sentiments qui les imprègnent, Johanna Hogg passe de la limpidité au baroque, oscille avec grâce entre épure et onirisme. Écran large, Alexandre Janouviac, The Souvenir est une œuvre expérimentale, passionnante, capable de dépasser les limites de la fiction pour offrir une fresque émancipatrice hors du temps, un double grand film exigeant mais hors du commun. Il y en a qui n'ont quand même pas aimé, c'est François Forestier dans L'Aube. C'est un interminable pensum sur le terme de qui suis-je, d'où viens-je, dans quelle étagère. Sandra Onanda dans Libération, le résultat n'offre pas vraiment la révélation annoncée et on le rangerait plutôt sur l'étagère des œuvres oubliées, sitôt vues. Ce que l'ensemble paraît souffrir d'un flegme, c'est que l'ensemble paraît souffrir d'un flegme dépassionné qui le rend terne à force de vouloir être feutré. Je ne suis pas allé voir, je n'avais pas le temps de le voir avant l'émission. Ce souvenir part one, ce souvenir part two, qui vous est proposé au cinéaste avec une séance par jour. Et je répète, on peut enchaîner. Allez, petite pause musicale. On n'aura pas le temps de parler des films pour enfants, on les citera simplement. On va juste passer un titre que l'on entend dans Les Jeunes Amants et ça s'appelle A Lady of Certain Age. C'est parfaitement adapté au personnage de Fanny Ardant et c'est par Divine Comedy sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Back in the day you had been part of the smart set. You'd holidayed with kings, dined out with starlets. From London to New York, Capetta to Capri. In perfume by Chanel and clothes by Givenchy. You sipped Camparis with David and Peter at Noel's parties by Lake Geneva, scaling the dizzy heights of high society, armed only with a checkbook and a family tree. You chased the sun around the Côte d'Azur until the light of youth became obscure and left you on your own and in an English lady of a certain age. And if a nice young man would buy you a drink, you'd say with a conspiratorial wink, you wouldn't think that I was 70. And he'd say, no, you couldn't be. You had to marry someone very, very rich so that you might be kept in the style to which you had all of your life been accustomed to. But that the socialists had taxed away from you, you gave them children, a girl and a boy, to keep your sanity. A nanny was employed, and when the time came they were sent away. Well, that was simply what you did in those days.
the sun around the Côte d'Azur, until the light of youth became obscure and left you on your own.
The Lady of Certain Age, magnifique mélodie, interprétée par Divine Comedy, que l'on entend dans le film Mes jeunes amants. Alors les films pour les enfants, eh bien, il y a Vaillante, film d'animation qui est proposé par le Méga CGR, le Colisée, le Pâté Quinconce, et puis toujours pour les enfants. Cette fois-ci, c'est au cinéaste. Eh bien oui, les vacances commencent, donc Delphine va reprendre, non pas du service parce qu'elle travaille tout le temps, mais elle va pouvoir animer les après-midi des jeunes qui viendront voir les films au cinéaste. Il y a donc dans les nouveautés Vanille, qui est un moyen métrage, et puis aussi Des voisins de mes voisins sont mes voisins. On n'a pas le temps d'en parler, donc je les cite juste pour mémoire. Les films à l'affiche la semaine prochaine, on commence par les avant-premières. Dimanche à 11h15 au Méga CGR et au Pâté Quinconce, White Snake, c'est un dessin animé, style un peu manga, ce genre-là, c'est un film dessin animé chinois. Le Pâté Quinconce propose un documentaire, Le Chêne, dimanche à 16h. Et puis ensuite, mardi, c'est une équipe de films, c'est Jérôme Commander qui vient proposer Irréductible à 19h au Pâté et à 20h au Méga CGR. Donc on pensait qu'il fait l'ouverture au Pâté et qu'il participera éventuellement à une discussion au Méga CGR. C'est généralement comme ça ça se passe. Et puis jeudi 10, La Brigade, là c'est à 19h30 au Méga et 20h30 au Pâté. Là aussi c'est avec l'équipe de film, avec Audrey Lamy par exemple. Il y a aussi François Cluzet dans ce film-là. Sinon les films à l'affiche la semaine prochaine, eh bien il y aura Les Vedettes. Les Vedettes c'est le Palma Show, Grégoire Ludig et David Marsay. Moi je l'ai vu, c'est pas absolument enthousiasmant, je préfère les sketchs du Palma Show. Et puis sinon, eh bien, Mort sur le Nil, oui, enfin, Mort sur le Nil arrive sur les écrans après maintes et maintes reports dus au Covid. Moonfall, ça c'est le gros blockbuster avec beaucoup d'effets spéciaux. Et puis Marry Me, ça c'est la comédie romantique avec Jennifer Lopez et Owen Wilson. Et puis les cinéastes vous proposeront deux films qui me paraissent très intéressants, Enquête sur un scandale d'État avec Roche Dizdem, Pio Marmaille, Vincent Lindon. Et Vous ne désirez que moi, de Claire Simon, avec Swan Arlo et Emmanuel DeVos. Donc ces deux films, ça sera en priorité pour moi. Voilà pour ce qui est de cette semaine. Moi, je vous recommande absolument Arthur Rimbaud. Oui, absolument Arthur Rimbaud. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Les jeunes amants, si on est un jeune super-héros malgré lui, voilà. Donc, c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa. 107.3 FM Le Mans, dans Clap comme il se doit.